Dernier roman, publié dans la collection L'Infini, dirigé par Philippe Soler chez Gallimard, Polaire, qui a été publié il y a quelques semaines, cette année. Marc Potrel est l'un de ces très rares écrivains bordelais publiés dans la collection L'Infini et chez Gallimard. Je pense que...
Je crois que je suis le seul actuellement.
En ce moment.
En ce moment, même depuis... peut-être depuis l'origine, je ne sais pas. En ce moment.
En ce moment, cela se discute parce que Judith Broust, qui est bordelaise, a été publiée dans la collection L'Infini.
Oui, voilà, c'est pour ça que je cherchais, oui.
Mais qu'importe. Oui. Nous ne sommes pas là pour parler de Judith, mais de votre travail et de vos livres. Marc Potrel a, à ma connaissance, publié 5 ouvrages, Le métier de dormir, puis L'homme pacifique, dans la collection L'Infini, Je suis une surprise, Un voyage humain et Polaire. Je me permets de vous dire, Marc, quand j'ai lu Polaire, au fur et à mesure que j'entrais dans le roman, un certain nombre de réminiscences et d'images ont traversé mon esprit. J'ai pensé à Breton, il y en a déjà. J'ai pensé au jour de guerre de Judith Broust. Et puis, à la fin du livre, et notamment pour préparer notre entretien d'aujourd'hui, en relisant votre ouvrage, il y a 2 jours, j'ai eu le sentiment que ce livre, il ne fallait surtout pas le présenter à un public qui va le découvrir, qui va découvrir ce roman. Il ne fallait surtout pas dire qu'il s'agissait d'un livre sur la bipolarité ou sur la folie. Je l'ai lu comme étant un livre sur le rapport amoureux d'un homme avec une femme. Alors, je vois que vous hochez la tête, mais nous ne sommes pas concertés. Je vous fais part de mes impressions de lecture. Pour moi, c'est un roman d'amour avant d'être un roman sur la folie et la bipolarité.
Oui, c'est exactement ça. C'est d'abord une histoire d'amour et d'abord une sorte de quête d'errance d'un homme amoureux d'une femme et qui cherche à la séduire et qui n'y arrive pas et qui cherche à comprendre pourquoi et qui découvre ce qui pense être la maladie de cette jeune femme. Sans pour autant être certain qu'elle est malade. Il y a toujours dans le livre, il y a en permanence les incertitudes. Le héros ne peut pas n'est jamais certain de la réalité. Et j'ai voulu vraiment que le lecteur soit aussi perdu que enfin qu'on puisse à aucun moment savoir où est la vérité. Donc c'est pour ça qu'il y a une quantité de choses qui sont floues, d'éléments et de moments qui semble manquant, y compris dans la chronologie, les retours en arrière. Ce qui commence le livre, c'est un cauchemar. Et c'est aussi ce qui m'a donné l'idée d'écrire le livre. Et tout le reste du livre, donc après ce cauchemar qui débute le livre, où le narrateur voit cette femme, la voit dans un rêve qui se transforme en cauchemar, il revient à ses souvenirs et il essaie de décrire cette histoire, ou ce début d'histoire, ou cette histoire manquée avec cette jeune femme. Et ce retour à la réalité, en fait, j'ai voulu qu'il soit presque encore un rêve. On n'est jamais véritablement... on a toujours l'impression que c'est un rêve éveillé.
Alors, si vous me permettez, voyez-vous, je suis enclin à rapprocher votre titre, Polaire, d'un très beau passage de votre roman. Je me permets de le lire. Elle est heureuse, elle rit, Puis soudain, elle se lève et se met à danser, faisant les grands mouvements classiques qu'elle a appris dans sa jeunesse. Entre chat, balloté, temps levé, sauté, fouetté. Elle vrille, elle tourne sur elle-même. C'est une toupie éblouissante. Une étoile polaire, Stella Polaris, visible à l'œil nu. Depuis tous les points de la Terre, elle rayonne. Je ne l'avais jamais vue ainsi. Ce passage, notamment, me donne à penser que le narrateur, qui s'efforce de séduire cette jeune femme, est aimanté par cette jeune femme. Il y a un phénomène de fascination au sens étymologique du terme. Elle est son étoile polaire. Il y a un phénomène magnétique qui se passe entre cette femme et cet homme.
Oui, elle est sa boussole. C'est la définition même de l'état amoureux, c'est-à-dire on perd le nord ou au contraire on est attiré, aimanté. Il y a aussi un autre passage, j'y pense à l'instant, où je crois qu'on on parle du monde à l'envers et d'une carte qui a été retournée à l'envers à un moment.
Alors, pardonnez-moi, Marc, le public va croire que nous faisons un numéro de duettiste, parce que j'avais prévu dans la conduite de cet entretien, qui n'a absolument pas été préparé, d'argumenter et d'étayer mon interprétation. Je pense que cette jeune femme, qu'elle soit bipolaire ou pas, est second par rapport à votre propos. Et je comptais justement vous interroger sur ce passage-ci, page 74-75 de votre livre. Elle me dit que son atelier, c'est ici, qu'elle peint à même le sol, agenouillée. Plusieurs de ses aquarelles récentes sont accrochées au mur, ses photographies également, dont deux tirages de femmes nues, des clichés pour lesquels ses amis ont posé. Elle a aussi punaisé une carte du monde, mais retournée. Le pôle Nord en bas, la Terre de Feu en haut. L'effet de surprise est immédiat, c'est la confirmation que le monde est à l'envers, c'est ce que vous dites.
Oui, c'est ça. Et c'est vrai que le titre polaire fait référence donc à l'étoile polaire, et donc à l'héroïne que le narrateur voit comme l'étoile la plus brillante du ciel. Mais puisqu'elle se refuse, c'est aussi un portrait de l'état d'un homme amoureux qui va le rester, puisque il n'y a pas de fin de l'histoire, il n'y a pas de séparation avec déception, il n'y a pas de fin finalement.
Il n'y a pas de fin, mais
enfin le livre a une fin, mais l'histoire en elle-même, puisqu'elle ne commence pas ou qu'elle ne réussit pas à commencer, même s'il va y avoir un rebondissement en Dordogne.
Nous allons en parler, si vous le voulez bien.
L'histoire reste dans l'attirance, dans la quête et dans le moment
le plus troublant.
Le narrateur a un espoir incroyable, c'est l'espoir des amoureux, c'est-à-dire que vraiment le monde va changer, que c'est une vie nouvelle, que c'est un monde nouveau, s'il est avec cette femme.
Si vous me permettez, je, tout à l'heure, pour introduire notre conversation et notre dialogue, je disais ce qui est vrai, qu'en vous lisant, je pensais à Breton et à Nadja. Je trouve que cette héroïne, votre personnage, comme Nadja survient dans la vie de cet homme, elle est une survenante, elle est aussi une révélatrice. Elle est révélatrice, à bien des égards, de ce qu'est cet homme. Elle est son miroir, parce qu'elle révèle ou elle souligne le fait que le monde soit à l'envers, mais comme vous venez de le dire, cet homme a la tête à l'envers parce qu'il est amoureux d'elle.
Oui, c'est vrai, on m'a déjà parlé de Nadja et j'avais oublié le livre de Breton. Et c'est une amie romancière, d'ailleurs, de chez Gallimard, Mina Danton, qui a travaillé sur Nadja et qui m'a refait penser à Nadja. J'ai repris Nadja et je me suis dit, mais oui, ce livre qui, à l'époque, était en écriture, je me suis dit, mais pas le livre en lui-même, mais l'héroïne, j'avais l'impression que c'était au moins au début, le même commencement que l'histoire de Nadja.
Les enjeux, parce que votre personnage est une magicienne comme les Nadja. Il est question à plusieurs reprises de magie dans votre livre.
Oui, elle dit qu'elle est une sorcière, mais c'est une magie blanche. Et notamment, au début, lors des premières rencontres, l'héroïne dit directement « T'inquiète pas, maintenant tu m'as rencontré, je porte bonheur aux gens et tout ce qui va t'arriver va être extraordinaire ». Évidemment, ça renforce l'attirance et l'amour du narrateur.
Et nous qui aimons la littérature et nous lisons beaucoup, à bien des égards, c'est le rapport noué entre Nadja, le personnage, et le narrateur breton dans le récit de vie qui est Nadja, puisque Nadja promet à Breton un avenir poétique et littéraire considérable. Elle est la messagère, de la même façon. Alors, votre personnage, est-elle aussi une messagère pour votre narrateur ? Parce que cet amour qui sera un amour inabouti, du moins charnellement, cet amour apprend un certain nombre de choses à votre narrateur.
Oui, mais une messagère, ça voudrait dire qu'elle est un petit peu qu'elle est juste la porteuse du message. Non, en fait, c'est elle le message, c'est pas une messagère. Le messager ou la messagère est toujours un petit peu second. Là, c'est elle le message. C'est ça. C'est ce qu'elle est. Ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, comment elle bouge, ses yeux. C'est elle le message. C'est pas une messagère.
Très bien. Enfin... Très bien. J'entends. Elle est le message, mais de quoi ? Qu'il y a deux pôles dans la vie ? Deux pôles dans la pensée ? Deux pôles dans les sentiments ? Je me permets d'orienter ma question de cette façon, puisque il y a ce magnifique passage que j'ai lu comme étant l'une des clés de votre récit. « Nous sommes maintenant assis dans la cuisine à la table carrée. Je suis dos à la fenêtre. Elle me fait face. Son visage est parfaitement éclairé par la lumière du dehors. Elle resplendit, je pense. Elle est stellaire. » Puis, par référence au nom que les psychiatres donne aux patients comme elle, bipolaire, je rectifie aussitôt. Elle est polaire. Oui, elle est perchée sur une des deux extrémités du monde. Alors, ces deux extrémités du monde, comment peut-on les interpréter ?
Et en fait, il y a une seule extrémité qui est intéressante, c'est ce qu'on pourrait appeler le ciel, c'est-à-dire c'est le pôle nord, c'est en haut. Même si au pôle sud, les gens n'ont pas la tête à l'envers. Enfin, mais c'est quand même c'est en haut que ça se passe, c'est le ciel.
Et l'azur ? Pardonnez-moi de vous interrompre, l'azur ? Parce que j'ai lu tous vos livres, il y a une intertextualité interne très grande dans vos textes, me semble-t-il, et il est souvent question de ciel bleu, ou de personnages aux yeux bleus, de femmes aux yeux bleus. Donc l'azur.
C'est pas la même femme, faut surtout pas faire de confusion. La femme d'un voyage humain, c'est pas la même héroïne que celle de Polaire.
De toute façon, si vous me permettez, Marc, nous ne parlons pas de la vie, nous parlons de littérature, de personnages.
Oui,
nous ne sommes pas là au Café du Commerce pour nous livrer à je ne sais quel commentaire sur l'actualité.
Oui, bah c'est tout simplement les yeux bleus, c'est-à-dire les yeux bleus, c'est toujours le ciel, et le ciel, c'est plus haut, c'est la liberté, c'est la couleur absolue.
C'est l'élan.
C'est quelque chose, c'est la couleur de l'océan, les yeux bleus, c'est quelque chose, oui, effectivement, et le bleu du ciel, qui est non seulement un titre, qui est aussi un titre de livre, Le bleu du ciel ou les yeux bleus ou l'océan, c'est le but ou c'est une sorte de quelque chose qui est inatteignable. C'est un petit peu comme quand je parlais du pôle. Oui, c'est quelque chose qui attire. C'est quelque chose qui vers lequel tous mes narrateurs vont. Et c'est que, comme le pôle Nord. Le pôle Nord, d'une certaine façon, le pôle Sud n'est pas intéressant. Le pôle Nord, c'est ce qu'il y a au-dessus. C'est quand on est sur le toit du monde, quoi. On représente toujours le globe dans ce sens-là. Parce que ça n'a aucune. Les cartes ont le nord en haut. Ça n'a aucune justification d'aucune sorte. Mais voilà, c'est toujours. Toujours, faut être au-dessus, aller au-dessus. Et c'est, il y a une attirance aussi pour le ciel, pour l'espace, pour les galaxies que j'avais évoqué dans Je suis une surprise, mon deuxième livre, et qui est le besoin de toujours avoir le maximum de place possible. C'est vraiment une attirance pour les grands espaces. Et c'est ça, les yeux bleus, c'est le ciel, c'est l'endroit le plus vaste.
Peut-être que, en vous écoutant, je me demande si le nord, si le haut, si le ciel n'indique pas tout simplement la direction de l'accomplissement. Pour être au monde, pour être véritablement au monde, c'est cette direction-là qu'il faut choisir.
Et l'accomplissement, c'est toujours, toujours aller plus haut et toujours aller vers quelque chose. C'est pour ça que je disais que ce qui est intéressant et ce qui donne toute la dynamique dans cette histoire, c'est qu'il n'y ait pas pas d'aboutissement. C'est le fait de ne pas obtenir ce qu'on veut qui donne toute l'attention et qui donne tout l'intérêt presque, toute la beauté de l'histoire, quoi.
Votre narrateur n'obtient pas ce qu'il désire, ce qu'il souhaite. Il désire un amour partagé.
Bien sûr, c'est logique.
Il désire un amour partagé et il cherche à séduire cette femme. Cette femme a 30 ans, une petite trentaine d'années. Elle suit des cours à l'École des Beaux-Arts. C'est une plasticienne. Elle a un comportement... Je dirais, nos auditeurs vont peut-être interpréter ma formule comme étant péjorative, elle ne l'est pas ni dans ma bouche ni dans mon esprit, personnage un peu fantasque, insaisissable, un personnage libre. Je suis tenté de dire, c'est un esprit libre. Breton disait de Nadja, c'est un génie libre. Bon, c'est un esprit libre. Elle ne correspond pas forcément aux personnes respectant toutes les conventions. Au premier abord, votre narrateur n'interprète pas cette liberté d'attitude et de comportement comme le signe indubitable d'une souffrance psychique.
Alors, c'est là qu'il y a une ambiguïté que j'ai essayé de travailler en permanence dans le livre, qui est que le narrateur ne veut pas croire qu'elle est malade. Et peut-être qu'il considère que c'est cette liberté qui lui est refusée, mais c'est un peu logique. S'il est amoureux, il peut pas admettre qu'elle soit malade.
Pour illustrer votre propos, c'est au tout début du roman, page 18, vous commencez la séquence 3 de la façon suivante. « Je n'ai jamais voulu croire qu'elle était dérangée, et chaque fois que la réalité a tenté de me le prouver, je ne me suis pas laissé faire, je me suis débattu, j'ai bataillé, j'ai tout fait pour résister et retourner les choses. » Donc le narrateur ne croit absolument pas à la folie de cette femme, et juste après, page 19, vous écrivez « À l'intérieur de ce bar, ce jour-là, elle me parle de l'Espagne, et moi, je lui parle de ma vie actuelle, beaucoup de travail et très peu de salaire. Elle m'écoute attentivement, puis elle me lance. « Tu n'as plus à t'inquiéter maintenant, tes soucis sont finis, car tu m'as rencontré. » Elle continue. « Je porte bonheur à tous ceux que j'approche, tu verras. » dans quelques semaines, il va t'arriver des choses extraordinaires. J'ai un don. Ça, vous nous l'avez expliqué. Mais la dernière phrase de votre paragraphe est merveilleuse. Vous écrivez « Moi, je bois ces paroles, je suis subjugué, emporté ». C'est cette fascination qui empêche le narrateur d'interpréter le comportement de l'héroïne comme étant un comportement de souffrance.
Oui, alors j'ai aussi essayé de la rendre prophétesse, c'est-à-dire de presque christique par moment, et d'en faire vraiment une comme si elle prophétisait, quoi. Il y a des passages où elle parle et où le narrateur devient une sorte de disciple.
Alors, vous et moi, nous avons un rapport à la réalité dont on peut penser qu'il est assez conventionnel, ou en tout cas, il ne nous empêche pas de payer nos factures, de travailler, d'être de bons pères et de bons compagnons. Votre héroïne va être internée.
Oui.
Dans l'espace diégétique, c'est indubitable. Et d'ailleurs, le narrateur-héros, va rendre visite régulièrement à l'héroïne. Et il va dans un hôpital spécialisé, le lecteur bordelais le reconnaît, puisque vous le décrivez assez bien, d'ailleurs.
Oui, et là, c'est évidemment un choc de voir la femme qu'il aime au milieu des gens vraiment, enfin des fous, des gens qui ont vraiment des gros problèmes. Il y en a un qui parle avec Jésus. Enfin, c'est une expérience assez particulière. Et là, effectivement, le narrateur peut plus croire ou peut ne ah, si, il continue de croire que c'est pas sa place, qu'elle est pas folle et que sa place n'est pas dans un asile.
Votre narrateur a le sentiment que, si l'on parle comme les psychiatres, le cas de l'héroïne est bien moins lourd que les autres pensionnaires de l'établissement, de cette institution où elle est internée pour quelques semaines.
Oui, que c'est qu'elle n'a pas à être là, quoi. Et en même temps, il y a aussi les manies, c'est-à-dire que quand elle l'appelle, quand elle s'échappe, donc elle est internée d'office et elle s'échappe, on ne sait pas trop comment, et elle appelle au téléphone en disant viens me chercher dans un bar, viens me chercher, j'ai pas d'argent, je me suis échappé. Et quand il arrive, à l'évidence, elle a un comportement maniaque, où elle n'est pas bien dans son assiette.
Peut-être, si vous m'accordez la possibilité d'utiliser le terme troublant, mais c'est un tic langagier de ma part, ce qui est troublant dans l'assiette psychologique du personnage féminin, c'est que, admettons qu'elle souffre, et qu'elle souffre vraiment. Admettons qu'elle soit vraiment bipolaire. Sa souffrance ne l'empêche pas d'avoir une lucidité terrible sur son état. Me semble-t-il, ce qui va se jouer entre elle et le narrateur, c'est que le narrateur l'aime, mais cette femme ne peut pas aimer. Et elle le lui dit. Et à plusieurs reprises, le narrateur entend cela la première fois. Il l'écoute, mais il ne l'entend pas. Il ne le comprend pas. Je fais référence à ce passage. Je me permets de lire. Elle me fixe alors. Elle semble ne pas me croire. Je continue ma diatribe amoureuse et son regard ne cesse plus de me transpercer. Elle commence à comprendre que je ne mens pas, que je dis vrai, que les choses sont sérieuses. Et ses yeux se mettent à briller. Et elle dit souvent... Pardon. Beau lapsus. Et elle dit soudain, je ne peux pas te donner ce que je n'ai pas. Alors le lecteur de Lacan trouve comme une réminiscence, parce que Marc Potrel ne s'est pas amusé, mais quand il écrit, il a en tête que aimer quelqu'un, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas.
Mais j'ai pas essayé de faire quelque chose de lacanien. Là, en l'occurrence, ça fait plutôt partie des éléments qui noient le narrateur, qui ne sait jamais où il en est avec elle. Il a une seule certitude, c'est son amour pour elle, mais il ne sait jamais ce que elle est vraiment ou ce qu'elle pense vraiment.
Il voit qu'elle prend plaisir à être avec lui. Il y a des échanges, il n'y a pas d'intimité, mais il y a des échanges, il y a une proximité, il y a un plaisir à être ensemble, à parler ensemble, à vivre des moments, et elle est partagée. Elle ne le repousse pas, mais elle va le repousser quand lui est entreprenant, et quand il essaie justement de la séduire, hein, et l'étymologie latine séduire, seducere, c'est conduire à soi, chaque fois qu'il essaie de l'amener à lui, là, elle rompt. Elle marque une limite, ou elle s'en va, ou elle le repousse.
Et à un moment, pourtant, il va y avoir elle va le rappeler.
Alors, elle va le rappeler, notamment, donc, le personnage féminin est interné. Elle sort de l'institution, elle va rejoindre la maison familiale, ses parents, qui se trouvent en Dordogne. Plusieurs mois vont s'écouler, si ma mémoire n'est pas défaillante, 3 mois. Et au bout de ce laps de temps, elle va proposer au narrateur de la rejoindre, de venir passer quelques jours dans cette maison familiale, les parents n'étant pas là. Et il va accepter, il va la rejoindre, je vais très très vite. Il va se passer quelque chose d'extrêmement important. Ayant lu vos autres livres, je dis que c'est extrêmement important parce que ça se passe dans la forêt. Et la forêt joue un rôle capital dans l'œuvre que vous êtes en train de construire. Hein, ça revient très souvent. C'est dans la forêt que l'intimité physique va se produire par un premier baiser, puis un échange de baisers. Et là, si vous me permettez, le narrateur est aux anges.
Oui, alors en fait, le livre est presque la moitié, toute l'histoire, la moitié se passe à partir de ce moment-là en Dordogne. Il y a une sorte de séparation en deux, avant la rencontre, la maladie, l'internement, et ensuite tout le reste du livre, la moitié du livre va se passer avec un ensemble de chapitres qui vont découper tout le rebondissement qui se passe sur 2 ou 3 jours. Mais en fait, je trouvais important, dans la composition, j'avais écrit un livre qui était un petit peu plus long, mais pour vraiment donner plus de dynamique, pour que le livre, on puisse le lire sans le refermer. Ça, je pense que c'est important. Enfin, c'est important de pouvoir lire le livre d'une traite et qu'à aucun moment on en ait marre, on se dise, on le repose, ou on se dise, bon, ça tourne en rond. Donc j'ai réduit un petit peu dans la construction de la composition la première partie de avant la Dordogne, quoi, pour vraiment resserrer, pour que l'intensité dramatique et l'importance il y a un découpage précis de tout ce qui se passe à partir du moment où donc après plusieurs mois il se retrouve, je crois que c'est un échange de mails, et elle lui dit, ben tiens, est-ce que ça te dirait de venir passer quelques jours en Dordogne? Et là il va y avoir beaucoup d'épisodes successifs compliqué, avec une baignade de nuit dans une piscine allumée, avec un ensemble de d'événements, la forêt. C'est vrai qu'il y a souvent des forêts. Il y avait une forêt dans mes livres, il y a une forêt dans l'Homme Pacifique. Je ne sais pas si dans Un Voyage Humain, Il y a des forêts ou des arbres, peut-être, je ne sais plus.
Il y a des arbres, il y a des forêts dans au moins trois de vos livres.
En même temps, un peu dans tous les livres, oui. Il y a toujours un peu des arbres aussi, à partir du moment où ça se passe sur la planète Terre. Mais c'est vrai que là cette forêt, oui, il rentre dans la forêt, c'est une forêt, on suppose, domaniale. Ils vont jusqu'à une clairière, etc. Donc ils s'embrassent. Et ensuite, ils n'arrivent plus à sortir de la forêt. Ils sont perdus, ils tournent rond. C'est vrai que les forêts, a priori, moi, je me perds déjà un petit peu partout. Mais donc, a fortiori, je me perds dans les forêts. Et apparemment, l'héroïne est un peu comme le narrateur. Elle se perd aussi. Et donc, ils se demandent s'ils vont ressortir de la forêt. Donc ça, c'est un peu un passage magique entre le moment où le narrateur obtient ce qu'il veut et le moment où ils vont ressortir de la forêt. Et il y a aussi des passages importants, c'est les passages en voiture. Quand c'est elle qui conduit et qui conduit à toute vitesse, notamment quand ils arrivent en Dordogne et après quand ils repartent de la forêt, c'est-à-dire ils ont un peu bu, elle un peu, et la voiture fait des embardées. Et pareil, quand ils arrivent dans la maison des parents, une grande maison, elle roule à toute vitesse sur une toute petite route, qui peut être la route de sa vie, avec des virages, et le narrateur a peur, et il dit « mais t'inquiète pas, de toute façon, c'est notre route, c'est le chemin pour aller chez... » pour aller dans notre maison, il peut y avoir personne en face.
Alors, je suis un peu obsessionnel. Je voudrais ramener à la question
il faut
du
que,
baiser.
De toute façon, les écrivains sont obsessionnels.
Voilà.
Et le lecteur lui-même aussi doit être obsessionnel. Tout ça, c'est une histoire
Si je ne vous choque pas en vous avouant mon caractère obsessionnel, je voudrais vous inciter à revenir sur la question du baiser. Parce que vous avez dit... que votre personnage, le narrateur, obtenait ce qu'il voulait. Je n'en suis pas si sûr, parce que, certes, ils vont s'embrasser, mais cette femme, dont je lis le parcours comme étant une femme qui ne peut pas aimer, avec la polysémie de l'amour, c'est-à-dire peut-être qu'elle ne peut pas se donner, et elle ne peut pas donner des sentiments. Bon, il y a ce passage qui me paraît là aussi un passage clé. Elle se retourne enfin, ses yeux sont lumineux, la lumière dont vous nous parlez, de l'azur. Elle se retourne enfin, ses yeux sont lumineux, mais elle continue de se laisser faire sans bouger. Elle a des seins petits et parfaits, tout son corps est parfait, malgré une maigreur que je ne soupçonnais pas. Je la caresse encore, elle réagit à peine. Pourtant, je vois que le corps lui-même est excité. Physiquement, les réactions sont là, mais son cerveau semble ne pas pouvoir suivre son corps. Sa tête, pendant une demi-seconde, me paraît une tête rapportée sur notre corps. Je l'embrasse dans le cou, et cette fois, elle réagit, me repousse doucement, sans véhémence, et avec une sorte de douceur, et elle dit cette phrase. « S'il te plaît, pas de tendresse, je t'en supplie. » La scène que je viens d'évoquer, se passe après l'épisode de la forêt, le personnage féminin ayant déclaré au narrateur qu'il obtiendrait ce pourquoi il était venu. Et il me semble que dans ce refus de tendresse, il y a quelque chose qui était déjà en jeu dans « je ne peux pas te donner » proféré auparavant.
En fait, toutes ces paroles doivent être interprétées, et c'est pas le narrateur qui les interprète. Il n'y a pas de clé, et c'est au lecteur de se débrouiller avec ça. Et je dirais que chacun peut interpréter comme il veut. À chaque fois, c'est En fait, à aucun moment, j'espère, le narrateur ne cherche à se mettre dans la tête de la jeune femme. Il se contente d'entendre ce qu'elle dit et d'écouter, de recevoir un certain nombre de phrases comme « je ne peux pas te donner ce que je n'ai pas » ou effectivement « pas de tendresse ». Et à partir de là, toutes les interprétations sont possibles. C'est peut-être un grand acte de la jeune femme, un grand tact, T-A-C-T, l'identité de la jeune femme pour ne pas blesser un homme qu'elle voit amoureux d'elle.
C'est possible. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Lire, c'est interpréter. Dans mon interprétation, juste après le passage que je viens de lire, le narrateur analyse en partie ses sentiments. Et il y a notamment ceci. Donc ce que je vais lire ne concerne pas l'héroïne, mais le narrateur. Mais rien ne change, et dans ces conditions, elle ne me fait pas un effet suffisant pour que nous puissions aller plus loin. L'assistance comprend. Je ne peux rien faire comme ça, et mes paroles n'y peuvent rien. Je lui parle, mais elle ne réagit pas. Alors si elle ne réagit pas, je ne suis capable de rien. C'est parce que mes mots changent une femme que mon corps est changé. Cette fois, ma parole est stérile. Le lecteur que je suis interprète les propos de votre personnage narrateur comme le constat qu'il n'a pas réussi à faire entrer cette femme dans son désir à lui. Parce que précisément, il constate la non-efficience de sa parole sur cette femme. Peut-être que séduire une femme et obtenir l'amour de cette femme, c'est la faire entrer dans son désir.
Ah, tout à fait, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire il a pas réussi à séduire, c'est effectivement convaincre par les mots. Et là ça il y a rien de possible. Mais je crois que ce qui est le plus intéressant, en tout cas ce que j'ai essayé vraiment de ça c'est des scènes effectivement qui comme ça peuvent sembler sont très fortes, mais ce qui est intéressant à chaque fois c'est les rebondissements. Et c'est ce qu'il y a avant et ce qu'il y a ensuite après, c'est-à-dire quand le narrateur va se retrouver tout seul ensuite et que là il va avoir une énorme crise d'angoisse. Donc il y a une succession de scènes qui je trouve dans leur articulation vont encore accentuer l'impossibilité d'interpréter ou de savoir vraiment ce qu'il en est. Tout ce dont il est certain, c'est qu'il a été amoureux d'une femme à un moment précis de sa vie. Et d'ailleurs, il dit à un moment qu'elle est en train de disparaître. Il dit pas, bien sûr, qu'elle disparaît qu'elle va mourir. Mais il dit qu'elle va changer, tout comme à un moment. Il précise aussi qu'il tombe par hasard sur une photographie de CV qui avait été prise quelques années avant, où elle était totalement différente, où il ne la reconnaissait pas. Et donc c'est une succession de femmes différentes sous la même identité, et il a rencontré cette femme à un moment précis. Et...
Pour illustrer votre propos, Marc Potrel, il y a ce passage, les deux personnages vont se séparer, la jeune femme raccompagne le narrateur à la gare, ils vont se séparer, ils s'embrassent, nous faisons la bise, elle me dit encore « ne reste pas comme ça, va voir un médecin ». Je me force à sourire. Je voudrais pouvoir articuler d'autres mots, mais je n'y parviens pas. Je sais qu'elle a commencé de disparaître lentement, qu'elle va devenir une autre. Je sais que je ne reverrai plus jamais la femme que j'ai connue. Voilà, ceci qui correspond tout à fait à ce que vous venez d'évoquer. Mais Marc Potrel, juste auparavant, il y a de mon point de vue une scène aussi extrêmement importante, c'est que votre héroïne, cette jeune femme, donc qui est plasticienne, qui peint, montre au narrateur ses derniers travaux. Et celui-ci a le sentiment, il n'en est pas certain, mais il a le sentiment que cette femme peint pour se faire mal. Je vous cite, elle peint pour se faire mal. C'est très troublant du point de vue de la création.
C'est, attention, ça arrive en conclusion de tout un passage où elle a détruit un tableau. Oui. Donc c'est parce qu'elle a détruit ce tableau qu'à la fin, il dit « elle peint pour se faire mal ». Ce n'est pas au début où il y a aussi beaucoup de tableaux, quand ils sont vus d'en haut, où, ils sont, où le narrateur les admire. C'est sur ce moment précis, après la fameuse nuit, qu'elle fait tout un tableau qui, au début, est très beau. Et puis... le narrateur dit, bon, il n'y a rien à ajouter. Elle ajoute quelque chose, donc le narrateur dit, tiens, oui, c'était peut-être mieux. Et puis, elle rajoute, et finalement, elle recouvre totalement ce qu'elle avait fait. C'est-à-dire, elle détruit le tableau par le... Et c'est sur ce passage-là, à la fin, qu'il dit, elle peint pour se faire mal. C'est pas sur l'ensemble.
Certes.
Donc là... Vous avez fait, cher Jean-Michel, une petite... vous avez isolé un passage pour généraliser. En fait, elle est quand même plasticienne. Elle ne fait pas la totalité. C'est pas la totalité de son travail qui est pour se faire mal. C'était sur ce moment précis, sur ce tableau précis, qui est décrit dans tout le... Comment recouvrir un tableau et comment, d'ailleurs, certains jours, nous, les écrivains, on fait des choses catastrophiques. C'est-à-dire, on part et puis on part sur une très bonne idée et puis on arrive à quelque chose. Et là, on pourrait dire, oui, ce jour-là, j'ai écrit pour me faire mal. Mais c'est sur ce tableau précis.
J'entends. Accordez-moi que... À partir du moment où les éléments du récit sont indécidables, oui, on peut considérer...
En tant que lecteur, vous avez tout à fait la liberté et la licence du lecteur pour interpréter.
On peut considérer que justement, cet épisode avec ce tableau-là qu'elle recouvre, elle recouvre sa création, est peut-être important.
Et d'ailleurs, si je peux me permettre, sur cette interprétation, sur tout ce qu'on fait depuis le début de cet entretien, à partir du moment où l'écrivain a écrit son texte, il ne lui appartient plus. Et c'est vrai que quand il en parle, comme j'essaie de le faire là, je dirais qu'il le mésinterprète, alors que la seule interprétation qui vaille, c'est la lecture personnelle, silencieuse par le lecteur. C'est le travail de lecture, quelque chose de très, très mystérieux, très magique, qui consiste à lire seul un texte et à le ressentir. Ça, on ne peut le faire que tout seul en tant que lecteur. Et là, on interprète tout ce qu'on veut, on pense tout ce qu'on veut, on imagine. Et ce n'est pas du tout la même chose que la réalité. Parce que la lecture, ce ne sera jamais la réalité. La lecture, c'est une expérience particulière. Et puis que le commentaire lacanien ou non que nous faisons du livre.
Alors, j'ai une dernière question, Marc Potrel. Le livre se termine sur ce très beau passage. Elle oublie tout ce qu'elle est.
Alors, si je puis me permettre, là encore, parce que sur ce passage, j'ai eu des échos. Ah. C'est très particulier. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il ne se met pas dans sa tête. Il regarde une photographie. Et c'est en regardant la photographie qu'il imagine... ce qu'elle est ou qui l'interprète ou qui se projette, notamment la dernière phrase. C'est uniquement le commentaire de la photographie, c'est-à-dire que vous prenez une photographie, vous décrivez une personne que vous voyez sur la photographie. Donc c'est ça que le narrateur est en train de faire et ce n'est pas une conclusion générale. Donc, voilà.
J'entends bien, mais vous avez entendu que ma traversée de votre livre, je l'ai vécue peut-être davantage du point de vue du narrateur que du point de vue de l'héroïne. Et il me semble justement, d'ailleurs vous le voyez dans mes notes, vous jetez un œil sur mon exemplaire de votre livre. Ce qui m'a le plus intéressé dans ce que je vais lire, c'est vraiment l'excipite. Elle oublie tout ce qu'elle est, elle oublie tout ce qui l'a damnée, tout ce qu'elle a vécu jadis, elle sait qu'elle n'est pas folle, elle n'a pas assez de force pour le prouver, Donc ceci est dit à partir de la photographie, nous sommes bien d'accord. Et le paragraphe et le livre se terminent ainsi. Quelqu'un devra le faire pour elle. Alors, j'ai eu le sentiment que, en lisant ceci, elle n'a pas assez de force pour le prouver, qu'elle n'est pas folle. Quelqu'un devra le faire pour elle. Le narrateur est toujours amoureux d'elle.
Alors là, c'est complètement ouvert. Cette dernière phrase, « quelqu'un devra le faire pour elle », c'est peut-être son futur, c'est peut-être le livre elle-même, c'est peut-être chaque lecteur, c'est comme si les lecteurs, quand ils lisaient, priaient. C'est ça, lire, c'est prier. Et que donc, s'il y avait des centaines de lecteurs qui lisaient, c'était des centaines de lecteurs qui priaient pour ce personnage. Il faut que ça soit ininterprétable, mais là encore, c'est ce que vous avez fait, tout votre commentaire, c'est une interprétation de lecteur, et voilà. La lecture, c'est on lit toujours mal ou bien, c'est-à-dire on lit toujours différemment. On comprend. Quand on lit quelque chose, on ne lit jamais exactement ce qui est écrit. Donc, tant mieux. Et merci, donc.
Je vous remercie d'avoir consacré un peu de temps à Marc Potrel et à la présentation de son livre. Et je remercie Marc Potrel
merci
pour
à vous, Jean-Michel.
Le dialogue.